Voilà.
Yeah. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Jusqu'ici, les rapports étaient classés secret défense, mais face à la nécessité d'une coopération internationale de grande ampleur, le sujet est désormais sur la table. Un conseil militaire international sur la sécurité et le climat vient même d'être créé à la conférence sur la sécurité planétaire qui s'est tenue récemment à La Haye, aux Pays-Bas. Faut-il s'en inquiéter ? On en parle tout de suite avec nos invités.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Bonjour Bastien Alex.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous êtes l'un des responsables de l'Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense. Alors je vous laisse nous présenter cet observatoire.
On s'excuse d'ailleurs parce qu'on n'a pas trouvé d'acronyme, donc
oui,
dans
un
une version
long,
plus courte.
Mais ça a le mérite d'être clair.
On l'appelle l'Observatoire Défense et Climat. Juste avant d'en dire un mot, je voulais peut-être revenir sur des éléments plus généraux pour bien vous cadrer la perspective dans laquelle nous on se situe et la manière dont on appréhende le changement climatique qui a fait qu'on en est arrivé aussi à cet observatoire. Moi je dis toujours que le changement climatique c'est un phénomène doublement global. Ça veut dire que c'est à la fois un phénomène global sur le plan géographique puisque tous les pays émettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui est un bien commun, donc l'atmosphère n'ayant pas de frontières, c'est bien un problème global. Et c'est un problème global dans le sens multidimensionnel parce que c'est à la fois un problème bien sûr économique, énergétique. Vous savez que le changement climatique provient de ces émissions de gaz à effet de serre qui sont issues de la combustion des ressources naturelles que l'on utilise pour notre modèle de croissance. C'est un problème en devenir sanitaire, c'est donc un problème énergétique, c'est un problème environnemental bien sûr, c'est un problème politique, on le voit lors des affrontements au moment des COP, hein, des négociations où on se répartit le fardeau, et c'est donc un problème sécuritaire également et de défense, ce que l'on étudie dans le cadre de l'Observatoire Défense et Climat. Donc aujourd'hui c'est un contrat qui est financé par le ministère des Armées et qui vise...
Ministère français.
Donc ministère français des Armées, tout à fait, la DGRIS principalement, donc qui est la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, et pour lequel nous étudions les liens entre climat, on va dire changement climatique, sécurité, donc heurts, conflits, tensions, et également les répercussions que ça peut avoir en termes de défense.
Alors cet observatoire réunit des chercheurs de plusieurs disciplines, ça prouve bien que quand même c'est un sujet qui monte.
Alors c'est un sujet de préoccupation qui monte effectivement puisque la France a décidé de s'en emparer. Alors il y a un petit effet COP21 derrière aussi, il faut bien le reconnaître puisque l'observatoire a débuté après la tenue de la COP21 en France en 2015. Mais c'est
donc
un sujet.
Ça au moins ça a marché, ça a donné quelque chose.
Ça a au moins permis en tout cas de lancer les travaux vraiment à l'échelle française au niveau de la sécurité et de la défense. Cet observatoire il vise à effectivement donc on va dire tester les hypothèses de lien entre changement climatique et sécurité. L'idée étant bien sûr de déterminer si oui ou non les changements climatiques à l'avenir sont en mesure de déstabiliser des situations et conduire à des conflits selon l'appellation la plus connue qui est celle de multiplicateur de menaces. Donc est-ce que le changement climatique joue ce rôle de multiplicateur de menaces, amplificateur de risques? Là aussi il y a des débats sur les termes utilisés, mais cela montre que le sujet a émergé en France, sachant encore une fois que cette préoccupation est plus ancienne, évidemment, quand on s'intéresse à nos collègues américains, par exemple.
Oui, les anglo-saxons s'y sont mis plus tôt, mais votre observatoire ne s'intéresse pas uniquement à la France. C'est pas parce qu'il est français qu'il ne s'intéresse qu'à la France.
Bien sûr, il s'intéresse donc évidemment aux répercussions pour les problématiques françaises, mais on va dire, si vous voulez, à la portée mondiale du changement climatique en termes de déstabilisation, avec une préférence toutefois sur les zones stratégiques pour le ministère de la Défense français, ministère des Armées, pardon. Donc si vous voulez, on va être évidemment plus intéressé par ce qui peut se dérouler au Sahel, ou dans le Pacifique, où nous avons une présence militaire, hein, avec nos forces de souveraineté, ou dans le cadre d'opérations extérieures. Donc ce sont des régions auxquelles on va être plus attentif par rapport à d'autres qui sont plutôt, je ne sais pas moi, l'Amérique latine par exemple. Pour l'instant, on a surtout travaillé sur le Sahel et le Pacifique dans le cadre de cet observatoire.
Alors on va en parler justement dans cette émission. Je le disais en introduction, il y a eu la création récemment de ce Conseil militaire international sur la sécurité et le climat lors d'une conférence qui vient d'avoir lieu à La Haye, aux Pays-Bas. C'est important la création de ce conseil?
Oui, alors l'idée c'est toujours pareil, c'est de travailler en meilleure intelligence puisque je le disais, nos collègues américains ont, eux, débuté leur réflexion un peu en amont, mais la France n'est pas le seul pays européen aussi qui s'y met. Et l'idée, c'est tout simplement d'arriver à un partage un peu plus abouti et un peu plus régulier des connaissances qui sont produites sur le sujet, donc à la fois sur les aspects sécuritaires, mais aussi dans les aspects défense, puisqu'on va dire que le sujet changement climatique et sécurité est traité depuis une dizaine d'années, un peu plus, mais ça fait moins longtemps que les ministères en charge de ces questions, donc les ministères de la Défense, le ministère des Armées en France, s'en sont emparés. Donc l'idée,
en fait,
c'est
il y avait un décalage entre les chercheurs qui travaillaient sur ces sujets et les autorités politiques qui ne s'en préoccupaient pas trop.
Tout à fait, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, hein, mais effectivement, il y avait un petit décalage. Je vous donne juste un exemple, par exemple le cas français avec, vous savez qu'on produit un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, on en avait produit un sous Nicolas Sarkozy en 2008, qui mentionnait déjà les liens entre sécurité et changement climatique, et dans l'édition de 2013 qui a été réalisée sous le quinquennat de François Hollande, finalement c'était des enjeux qui avaient un petit peu disparu. Alors qu'on avait plutôt l'impression que ça montait en puissance et que ça aurait dû être traité davantage, ça avait un petit peu disparu des radars. Donc la COP21 a permis de remettre l'accent dessus et de saisir les pouvoirs publics pour attirer leur attention sur le fait qu'il était nécessaire de produire de la recherche et de la connaissance sur ces sujets et donc de les partager à travers un réseau international qu'on a créé avec un centre américain qui s'appelle le Center for Climate and Security. Et vous avez aussi deux autres partenaires hollandais, donc Klingendael, qui est un centre de recherche, le centre des études de sécurité de l'AE, et donc ensemble avec l'IRIS, nous travaillons au décloisonnement de ces réflexions, à l'échange de bonnes pratiques, par exemple aussi si on travaille à l'évaluation des vulnérabilités des installations militaires, si nos amis américains font déjà des travaux en ce sens, comment s'y prennent-ils, quelle est leur méthodologie, est-ce qu'on peut nous la compléter, l'améliorer, est-ce qu'on peut regarder aussi ce que font les Australiens, c'est véritablement partager le savoir pour mieux se préparer ensemble aux manifestations du changement climatique.
Alors justement, pour que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, on a compris que c'était un sujet qui montait de plus en plus dans les agendas des politiques et qu'il y avait de plus en plus de chercheurs qui se mobilisaient sur ce sujet. Ce qui inquiète en gros tout ce monde, c'est que les changements climatiques sont désormais perçus comme c'est quoi ? C'est un catalyseur, un amplificateur des risques naturels, des tensions géopolitiques ?
Alors, il y a débat sur l'expression la plus utilisée, mais c'est quand même, je pense, celle de multiplicateur de menaces, pardon, qui est le fruit d'un rapport du Centre pour les analyses navales de la Navy américaine en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc les premiers ont utilisé ce terme de multiplicateur de menaces pour dire que le changement climatique était un paramètre qui venait renforcer, exacerber des paramètres de tension ou de conflictualité déjà identifié clairement, mais à travers l'effet sur les températures, sur la modification du régime des précipitations, sur les migrations, donc comment ce changement climatique allait impacter ces situations, donc des paramètres anthropiques et potentiellement conflictuels déjà connus, et comment cela allait pouvoir accélérer certaines situations de conflictualité. Donc évidemment la thématique ressources ressort véritablement assez de manière assez flagrante quand on étudie ces risques. La question, c'est est-ce que le changement climatique, par la modification de la pluviométrie, l'augmentation des températures peut par exemple provoquer des déstabilisations au Sahel, quand on sait que, évidemment, au Sahel, les populations vivent principalement de ressources naturelles, puisqu'elles sont soit agriculteurs, soit pêcheurs, soit éleveurs transhumants. Toutes ces activités dépendent en grande partie du climat. Donc si le climat se dérègle, quand on croise cela avec la croissance démographique et autres, on arrive à des situations où la conflictualité peut émerger.
Alors justement, avec nous dans ce studio, Baba Bakonare, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-malien et vous présidez l'association KISAL, que je vous laisse nous présenter.
Alors KISAL est une association de promotion des droits humains. À la base, ça a été créé pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs au Sahel. Et puis petit à petit, du fait de l'actualité, malheureusement, on a dû être aux prises avec les questions d'exactions, d'abus par les armées, par les groupes armés, et encore une fois de plus lors des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Mais de manière générale, on fait vraiment la promotion de ces communautés autochtones, de ces communautés qui vivent de moyens de rendement pré-industriels, tels que l'élevage. Et lorsqu'on est saisi par des communautés non pastorales aussi, il nous arrive de les aider à faire du plaidoyer, à faire du réseautage et à communiquer sur leur situation.
Alors comment vous faites le lien, vous, entre climat et insécurité en Afrique subsaharienne ?
Alors, dans les observations que nous avons au niveau de KISAL, on a le sentiment qu'il y a plutôt de l'insécurité vraiment un grand malaise psychologique chez les populations parce qu'elles ne savent plus comment prédire ce qui va se passer. Pendant très longtemps, on savait qu'il y avait des sécheresses par vagues. On savait quand même qu'il y avait des moments particuliers où la pluviométrie était favorable pour les cultures, qu'il y a des moments particuliers aussi où on pouvait emmener les animaux d'une cure salée au pâturage qu'il fallait. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus imprévisible parce que ces changements climatiques-là, ils n'ont pas l'effet souvent évident qu'on pourrait voir de se dire tout un endroit est asséché. C'est pas comme ça. Ça va être trop de pluie d'un coup, par exemple, dans un certain endroit, ou alors ça va être un endroit va reverdir et donc c'est plutôt là-bas qu'il faut aller. Donc il y a une grande compétition accrue entre les différentes communautés. Donc c'est pas tant que on a un scénario de catastrophe avec une vision où tout est en train de terminer, mais plutôt comme les gens n'arrivent plus à prédire, donc du coup ils essaient de se sécuriser, ils vont de plus en plus loin pour chercher les pâturages. Les agriculteurs, eux aussi, essaient d'investir de plus en plus dans la terre. Et malheureusement, ça a des effets sur les couloirs de transhumance. Et ça fait qu'avec l'absence des gouvernants, l'absence des États, finalement, le champ est libre pour les conflits entre les différentes communautés.
Et donc, on observe une augmentation des conflits. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien de quoi vous parlez, je vous propose d'aller au Mali, justement, dans la région de Mopti, où 80% de la population vit, comme vous le disiez, des cultures de subsistance. La hausse des températures, la baisse de la pluviométrie, la météorologie imprévisible, l'appauvrissement de la terre et l'avancée du désert créent une forte compétition autour des terres arables et des ressources naturelles, exacerbant, comme vous l'évoquiez, les tensions intercommunautaires entre éleveurs, pêcheurs et agriculteurs. Samuel Turpin a suivi Ousmane Barké Diallo, qui est agro-éleveur dans le village de Sofara. C'est à 70 km au sud de Mopti.
Oui, on est en train de suivre le troupeau. Et à partir de là, le berger est obligé d'être très attentif. Parce qu'en cas de dégâts, c'est lui le responsable. Et il suffit même si un animal fait un petit écart pour rentrer dans un sens seulement, tous les agriculteurs là viennent avec leur daba et tout ça, viennent s'acharner sur lui. Moi, c'est Ousmane Barké Diallo. Je suis agro-éleveur à Sofara aussi. Avant, c'était facile parce que la pluie venait normalement. Les saisons, c'était cyclique, tout le monde connaissait les dates et tout ça, c'était pas difficile à savoir. Mais maintenant, il y a un véritable changement. On ne sait plus quand est-ce que la saison de pluie va de quand à quand, la saison froide va de quand à quand, la saison sèche de quand à quand. On ne le sait plus avec précision maintenant. Donc, il faut toujours négocier pour éviter vraiment les conflits violents entre surtout éleveurs et agriculteurs. Le moment où on cultive les champs, donc cette période, l'hivernage, je trouve que le gros des animaux est sorti pour aller en zone exondée. On appelle là-bas le séno. Il n'y a pas beaucoup de champs là-bas, c'est des zones réservées à des pâturages. Mais à partir du mois des mois de décembre, janvier, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'herbe. Donc les animaux redescendent venir dans le delta, dans la zone inondée. C'est en ce moment que c'est très tendu. Quand ils reviennent, on est à 10 jours, 2 semaines de la récolte. Quelqu'un qui a passé 4 mois à travailler dur durant tout l'hivernage, il est à 2 semaines seulement de la récolte. Il ne peut pas admettre que des animaux rentrent dans ses champs et le saccagent. Donc c'est là où l'affrontement a lieu exactement en ce moment. Et c'est souvent, s'il n'y a pas quelqu'un pour intervenir vite, ça va très loin, c'est même mortel souvent.
Comment tu t'as fouillé hier là, tu t'as fait mal.
Donc ici c'était un champ de mil. C'est maintenant le mil, vous voyez le sol, ça ne peut plus produire du mil. La productivité devient très très faible.
Je
dis que les agriculteurs, s'ils voient un endroit, même si c'est une piste de transhumance ou une piste de passage, ils s'accaparent de ça. Il y a la pression entre les champs, les maisons à usage d'habitation, ainsi que les animaux. On ne peut pas se passer de tout. Il faut les champs pour vivre, il faut les animaux pour vivre, il faut les maisons pour habiter. Donc il s'agit de trouver maintenant une harmonie quoi, autour de tout ça.
Ce fleuve prend sa source jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc il traverse tout le sud du Mali, la région de Sikasso, une bonne partie de la région de Ségou. Et il va à Mopti, c'est à Mopti, il se jette dans le fleuve Niger. Donc c'est pendant l'hivernage qu'il se remplit d'eau et pendant la saison sèche, il se vide pratiquement, mais pas entièrement au point que tout est sec, non. y a toujours un tout petit peu d'eau quand même dans le lit. Et tu as vu l'eau monte jusqu'en haut avant. Maintenant, tu as vu, il y a le hameau et tout ça. Il y a 40 ans, ça n'existait pas. L'eau ne vient pas, donc les gens n'ont plus peur de construire. Non seulement il y a le sable, mais ça s'assèche même une bonne fois. Les rives s'effondrent au fur et à mesure. À ce rythme-là, je ne l'aurais pas cru il y a 20 ans, je l'aurais dit, je ne croirais pas. Mais aujourd'hui, vraiment, je le crois. Je crois vraiment que ça peut très bien disparaître. Les conséquences, là, ça va être un chaos. Parce que les gens n'imaginent pas mais combien de personnes vivent à travers ces cours d'eau-là. Tu vois, quand 100 personnes vont vouloir se partager, ce qui suffisait à 5 personnes, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller, et c'est ça. Soit tout le monde part, ou bien tous les gens s'entretuent ici. Ça va être ça.
Il
dit que avant le poisson avait le temps de se développer parce que seulement la pêche était une tradition. C'est-à-dire que c'était ceux qui sont supposés être des pêcheurs, les bozos, uniquement qui pêchaient. Mais aujourd'hui, avec les difficultés, beaucoup de personnes sont devenues des pêcheurs. Donc il y a eu excès de pêcheurs, le poisson n'a pas le temps de réellement se développer maintenant. Et ajouté à la rareté de l'eau, vraiment c'est ce qui explique la rareté, non seulement du poisson, mais même, ce n'est plus la même grosseur qu'avant. Ils ont des enfants de 20 à 25 ans qui ne connaissent même plus ces variétés de poissons. Avec la rébellion, les pêcheurs ont tous déménagé. Et malheureusement, ils sont venus augmenter le nombre de pêcheurs ici. La pression est devenue beaucoup plus forte sur les cours d'eau. Exclusivement aujourd'hui, la pêche ne peut pas nourrir. Ils sont obligés à côté de cultiver. Il dit que son fils a refusé carrément de faire la pêche. Il est en train de faire du commerce. Il ne veut plus, il ne veut pas entendre parler de pêche parce que ça ne nourrit pas son homme. Il dit que c'est ce que son papa a dit est vrai. Réellement, aujourd'hui, la pêche ne plaît pas parce qu'ils ne gagnent rien là-dedans. Mais s'ils ne le font pas aussi, ils vont entrer en conflit avec les vieux. Eux, au moins, ont eu la chance que de leur temps, il y avait beaucoup de poissons. Donc, ils gagnaient. Ce matin, lui, il a été pêché. Il n'a eu que 2 poissons. Ça ne suffit même pas pour la sauce de la famille à Fortuny pour vendre. Il leur faut vraiment s'adapter et inventer d'autres moyens de subsistance. C'est sur la rive gauche. Il y a des djihadistes là-bas. Des groupes de djihadistes qui sont au Mali là. Eux, bon, ils sont dans leur élément. Ils peuvent se mouvoir comme ils veulent là-bas. C'est ce qui explique qu'ils sont là-bas. Ce n'est pas des rebelles Touareg, c'est nos propres enfants ici. C'est nos petits frères, nos fils, c'est nos propres enfants ici. Parce qu'au départ, il faut reconnaître que le discours que la rébellion avait tenu était un discours très séduisant pour tout le monde. Parce qu'il y avait tellement d'injustices dans notre région ici que eux, ils tenaient un discours de justice. Ça a ses limites, c'est vrai, ça a beaucoup d'insuffisance, mais au moins c'est mieux que la corruption qui existe. En réalité, tout est parti de la sécheresse là qu'il y a. S'il y avait suffisamment d'eau dans les cours d'eau, suffisamment de pluie, on n'en serait même pas arrivé à tout ça.
Moi, je m'appelle Souris beaucoup. Je suis éleveur. Ça fait 10 jours aujourd'hui qu'il ne pleut pas ici. On est en hivernage. Le manque de pluie, là, c'est dû à la déforestation. Les populations qui viennent ici, par exemple, dans notre commune, il y a des populations qui sont venues du nord. Des Bella, des Dogons, ils sont venus du nord. Ils sont venus s'installer. Il n'y a pas de travail. Ils sont obligés de couper les arbres pour faire du charbon, pour vendre. Donc, on a coupé la forêt complètement.
Complètement, il n'y a pas de forêt même.
Puisque le gouvernement ne peut pas faire face au gaz pour donner à la population. Tu es obligé de préparer pour manger. Avec quoi? Parce qu'auparavant, à Sofara ici, notre population n'accédait pas les 10 000 habitants. Aujourd'hui, on est presque 20 000 habitants. Ça, c'est à cause du conflit, c'est à cause du changement climatique, à cause de la sécheresse, à cause de la famine seulement. Un chef de famille qui a à nourrir plus de 60, s'il n'arrive pas à le faire, il y a problème dans la famille. Ça, c'est un de deux. Dans le village, les terres cultivables là, c'est peu. C'est, voilà le problème qui crée des problèmes au fur et à mesure.
Un reportage de Samuel Turpin, extrait de la série Humans and Climate Change Stories, qui consiste à suivre pendant 10 ans une dizaine de familles dans une dizaine de pays qui s'adaptent aux conséquences des changements climatiques. Baba Bakonare, comment est-ce que vous réagissez à ce reportage ?
Je trouve que ça décrit très bien l'impact des facteurs anthropiques, comme on le disait tout à l'heure entre nous. C'est-à-dire que comme il y a eu la rébellion, comme il y a eu tous ces mouvements djihadistes, comme il y a également eu les interventions par l'armée malienne, par l'armée française, les populations sont obligées de bouger pour aller dans des endroits où elles n'allaient pas forcément avant. Et donc ça accroît quand même la pression démographique, la compétition pour les ressources, et finalement ça accentue ce sentiment que l'environnement n'est plus l'environnement qu'on a connu avant. Et je pense que dans tous les récits qu'on fait sur le changement climatique, c'est peut-être quelque chose dont il faut tenir de plus en plus compte. Les changements climatiques ont un impact, ça c'est certain, comme on l'a dit, ça rend les prévisions difficiles, ça met beaucoup d'insécurité, mais surtout, plutôt que de remarquer les changements climatiques, les gens se rendent compte que leurs conditions au quotidien sont devenues plus difficiles, tout simplement. Peut-être qu'ils ne voient pas nécessairement toujours que le climat n'est pas comme il était autrefois. Et ce que ça crée comme problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les communautés n'arrivent pas à faire de plaidoyer comme elles le voudraient. Quand des éleveurs arrivent dans une bourgade, ils ne peuvent pas dire « ici c'est chez nous, on a aussi le droit d'emmener nos bêtes ». Les agriculteurs disent « ça c'est chez nous, vous, on vous laissait de temps en temps venir, mais finalement c'est un privilège qu'on peut révoquer comme on en a envie ». D'où le fait que les conflits peuvent démarrer très rapidement.
Mais Bastien Alex, je rappelle que vous êtes l'un des responsables de l'Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité. On entend qu'il y a quand même, pas uniquement les changements climatiques, il y a globalement une dégradation de l'environnement qui crée du coup une situation d'insécurité pour tous.
Oui, je crois que le reportage est très explicite et je rejoins complètement Baba là-dessus. Ce qu'on nous montre, c'est que la phrase d'une des personnes dans le reportage, c'est quand 100 personnes doivent se partager ce que se répartissent ces 5 personnes, ça ne peut plus aller. Et c'est bien de ça dont on parle. C'est que aujourd'hui, donc, on a des facteurs anthropiques, on a la pression aussi de la croissance démographique, qui est quand même très importante dans cette partie de l'Afrique. Et cela se couple avec cette impossibilité de prévoir, par exemple, le calendrier des migrations, le calendrier des transhumances, le fait qu'on n'est plus capable de prévoir l'arrivée de la pluie, le fait, comme le disait aussi Baba tout à l'heure, qu'on a parfois des perceptions qui sont faussées parce qu'en termes de, par exemple, de millimètres tombés, on va avoir quelque chose qui est acceptable autour de 400 ou 500 millimètres par an. Mais en fait, si cette pluie-là, elle tombe de manière ramassée, elle ne va pas être bonne pour les cultures et pour l'élevage aussi, puisque ça ne va pas faire pousser le même type de végétation. Une végétation qui n'est pas profitable pour les éleveurs parce que pas suffisamment nutritive, etc. Donc on voit bien qu'il y a enchevêtrement de facteurs et qu'on est bien sur un territoire qui subit la pression démographique, la déstabilisation sécuritaire, des mouvements de population et des ressources qui s'amenuisent. Là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que on voit bien quand on est, par exemple, éleveur ou agriculteur, qu'on n'arrive plus à vivre de son lopin de terre, qu'on n'arrive plus à subvenir à ses moyens, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche un autre travail. Bah, on va devenir pêcheur. Mais tout le monde ne peut pas être pêcheur en même temps parce que sinon on épuise la ressource. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des gens aussi qui sont là qui veulent pas pêcher. Donc ils vont commencer à vendre du charbon, à couper des arbres, et on se retrouve comme ça à dégrader totalement l'écosystème qui ne permet plus aux populations de subsister. Donc c'est vraiment un écosystème global de paramètres naturels et anthropiques, sachant qu'en plus le changement climatique d'origine anthropique impacte tout cela.
Et puis il y a des jeunes qui deviennent djihadistes, on l'entend aussi.
Exactement. C'est très intéressant ça aussi. C'est pourquoi on devient djihadiste. Enfin djihadiste, on pourrait mettre d'énormes guillemets, hein, puisque là aussi, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est chef de famille, qu'on doit subvenir aux besoins des siens, qu'on n'est plus capable de le faire, c'est déjà aussi un déshonneur massif. Puis de toute façon, ça vous met en situation de détresse immense. Et il faut bien trouver quelque chose qui vous permet de subvenir à vos besoins. Donc qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous prenez celui qui vous propose du travail. Et qui qu'il soit, bah, au bout d'un moment, quand on doit faire face à tout ça, on peut très bien choisir une carrière criminelle ou de djihadiste sans avoir aucune espèce d'attirance ni d'adhésion aux propos qui sont portés, mais tout simplement parce que ça permet de générer un revenu et de faire vivre la famille et la communauté.
Là, nous étions au Mali, mais il n'y a pas que le Mali qui est concerné. Vous me parliez, Baba Bakounaré, de la situation aussi dans l'est du Nigeria.
Tout à fait. Dans toute la zone du Middle Belt, le plateau de Mambila, en allant vers l'état de l'Adamawa, il y a de grands conflits opposant agriculteurs et éleveurs là aussi. Et moi, je pense que en plus de l'idée que certains veulent se reconvertir parce que leurs activités traditionnelles ne sont plus possibles, il y a vraiment la question de la justice sociale. C'est-à-dire, nous sommes pauvres, nous n'arrivons pas à nous nourrir comme il faut. Est-ce qu'un État peut venir pour nous aider? Est-ce qu'on peut écouter les doléances qu'on a? Et c'est là où je fais le point avec le djihadisme. Pour moi, le djihadisme au Mali, bon, c'est un phénomène qui est devenu aujourd'hui très emblématique, mais en réalité, ce n'est pas tant une radicalisation religieuse, c'est une radicalisation armée, certes. Et c'est là où on voit un lien de ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Nigeria, ce qui pourrait se passer dans d'autres endroits, où tout simplement, comme les gens ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas se faire entendre, qu'ils ne peuvent pas avoir la justice d'une manière qui permettrait plus d'égalité sociale, alors ils prennent les armes et ils essaient d'arracher la justice de cette manière-là. C'est comme ça que les djihadistes au Mali ont réussi à séduire, notamment par ce groupe qui s'appelle le Moujao, qui a amené beaucoup de jeunes avec lui, pas en disant « on va prendre tout ce dont on a envie », mais en disant « on nous a fait de l'injustice et aujourd'hui, on veut juste rétablir les choses dans l'ordre dans lequel ils devraient être. » Et lorsque certains États au Nigeria se permettent de faire l'expulsion de communautés entières, comme les communautés pastorales, ou d'interdire que les communautés pastorales puissent avoir accès à des lopins de terre, alors dans ce cas, ça crée vraiment une frustration grandissante. Et lorsque les gens se retrouvent coincés entre ça, les changements climatiques, la prolifération des armes, vous voyez le cocktail que ça peut faire.
R. Je disais que F. Il fait trop chaud ici.
I. Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
To me. Oh, I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers' eyes when their sons go out to fight and lose their lives. I said, war, good God, y'all.
What is it good for?
Absolutely.
Now
get sad again. To me.
Whoa.
It ain't nothing but a heartbreak.
Whoa.
Send only to the undertaker. To me.
Whoa.
It ain't nothing but a heartbreaker.
Whoa.
I got one friend, that's the undertaker.
Oh.
Say it again.
C'est pas du vent sur RFI, nous parlons du lien entre la dégradation de l'environnement et les bouleversements géopolitiques avec nos deux invités, Bastien Alex, responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et l'un des responsables de l'Observatoire Géopolitique des Enjeux des Changements Climatiques en termes de sécurité et de défense, et Baba Bakonaré, franco-malien et président de l'association KISAL, qui porte entre autres la parole des peuls du Mali et du Burkina Faso. Alors, Bastien Alex, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il va y avoir de plus en plus de conflits ouverts, de conflits armés réellement à cause des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement ?
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il va y avoir de plus en plus, mais en tout cas, c'est une hypothèse sérieuse sur laquelle on travaille. En tout cas, elle est aujourd'hui sérieuse, encore une fois.
Il y en a déjà, d'ailleurs, des conflits qui sont issus de la dégradation de l'environnement.
On en a déjà observé, c'est exactement le sujet qu'on abordait juste avant la coupure musicale, hein, sur la question des conflits éleveurs-agriculteurs, mais qui sont de l'ordre plus du conflit, on va dire, intra-étatique. Je pense que l'exemple... Quand on pense à conflit, on a tendance aussi à imaginer un conflit, une guerre finalement entre deux États. C'est à ça que je réagissais. C'est peut-être là un peu moins, en tout cas envisageable, en tout cas moins souhaitable, c'est sûr aussi. Non, l'exemple, je pense, intéressant en ce moment, en tout cas l'étude de cas sur lesquelles beaucoup de gens travaillent, c'est les rapports entre l'Éthiopie et l'Égypte dans le cadre du partage des eaux du Nil. On sait que l'Égypte est un pays qui dépend pour son eau à 95% du Nil, vous avez tous noté que depuis 2011, l'Éthiopie a commencé la construction d'un immense barrage, le plus grand barrage d'Afrique, qui s'appelle le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, donc depuis 2011, cet ouvrage met peut-être en difficulté le Soudan pour leur approvisionnement en eau. 2011, c'est pas anodin, hein. L'Éthiopie a profité de la déstabilisation de la révolution en Égypte et aussi 2011 qui correspond au Soudan à la période d'indépendance du Sud-Soudan, donc pour lancer cet ouvrage. Et la crainte aujourd'hui, c'est que ce barrage, qui est donc le plus grand, je le disais, d'Afrique, une retenue d'eau qui va avoisiner les 70 milliards de mètres cubes, le temps de remplissage du barrage va être très très long. Le barrage est déjà quasiment construit aux deux tiers. Maintenant, l'interrogation porte sur le temps de remplissage du barrage, donc du lac artificiel, hein, du
stockage. Et on peut imaginer que les tensions vont s'accroître au rythme du remplissage du barrage.
Alors évidemment, pour l'instant, la durée du remplissage n'est pas tranchée, puisque les Égyptiens demandent à ce qu'elle soit la plus longue possible, la plus étalée dans le temps, et les Éthiopiens, pour lancer la production d'hydroélectricité, veulent qu'elle soit très très courte. Donc on discute aujourd'hui de ces sujets-là, évidemment c'est très compliqué. Il y a des cabinets qui sont censés faire une étude d'impact sur justement les influences sur le Nil et son débit cet ouvrage majeur. Mais généralement, quand on fait un aménagement de ce type, l'étude d'impact, on l'a fait avant. Là, le chantier, il est construit aux deux tiers. Donc, vous comprenez bien l'enjeu en question. Et si vous voulez, ce qui est là où le changement climatique rentre en ligne de compte, c'est encore une fois ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette modification de la variabilité interannuelle, ce qui fait qu'on a du mal à prévoir d'une année sur l'autre le rythme des précipitations. Évidemment, pour le débit d'un fleuve, c'est très important. Et certaines études craignent, par exemple, qu'à partir de 2050, on ait des variations du débit du Nil de l'ordre de 50% d'une année sur l'autre. Donc, vous imaginez bien que si on met en perspective la croissance démographique de ces régions, il y a déjà 100 millions d'habitants en Éthiopie, hein, quasiment en Égypte. Si on met ça en perspective avec une diminution du débit du fleuve de 50%, avec les aménagements qu'il y aura, les prélèvements soudanais, etc.,
sachant que l'agriculture puise essentiellement dans le Nil.
Sachant que l'agriculture, et pas seulement, mais l'eau aussi, l'eau de consommation. Donc on est sur des enjeux qui peuvent potentiellement être très néfastes si jamais ça n'est pas géré. Donc encore une fois, le changement climatique agit comme un multiplicateur de menaces sur cette situation. Donc le conflit dépendra de la manière dont sera gérée cette pénurie en eau, si pénurie il y a. Mais en tout cas, ça vient apporter une pression supplémentaire avec les paramètres anthropiques.
C'est un exemple parmi d'autres de pression sur la ressource, hein, Baba Bakonaré. On parlait du Mali, le Burkina Faso. Là aussi, il y a des conflits entre les personnes autour des ressources.
Ce qui amplifie les problèmes au Burkina Faso, disons qu'il y a les ressources vivrières, bien sûr, et là on retrouve le même schéma qu'au Mali ailleurs, mais pour parler de quelque chose d'un peu différent, il y a aussi quand même le fait que l'environnement est dégradé aujourd'hui, parce que de plus en plus de personnes vont pour chercher de l'or. À partir du moment où il y a eu ce grand boom dont on a parlé au centre, au nord du Burkina Faso, énormément de gens se sont déplacés, donc des régions entières se sont retrouvées encore plus surpeuplées, avec là aussi de la compétition pour la nourriture. Mais finalement, l'environnement est dégradé aussi parce que tout le monde vient avec cette idée qu'on peut s'enrichir rapidement en prélevant des minerais. Et ça donne lieu aussi à des pratiques quasi illégales où vous avez des sociétés qui viennent, qui exploitent comme elles ont envie de le faire sans une redistribution sociale derrière. Et je pense que l'un des défis qu'il y aura pour le futur, c'est comment parvenir à trouver le bon équilibre entre préserver l'environnement suffisamment pour que les gens continuent à vivre de leurs terres et en même temps arriver à exploiter ces ressources comme ces minerais qui sont des richesses et les redistribuer au niveau des populations locales aussi en empêchant qu'il y ait cette espèce de ruée de gens venant de partout.
Oui, savoir aussi gérer justement les déplacements de population, des déplacements qui vont être de plus en plus importants. C'est en tout cas l'avis du chercheur François Gémen, membre aussi de l'Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense.
C'est vrai que peut-être que dans nos sociétés occidentales, on parle ici dans un studio parisien, on a l'impression d'être parfois un peu...
On est un peu éloigné des ressources naturelles.
Éloigné des ressources naturelles. Il faut bien réaliser que pour une majorité de la population, c'est leur source de vie et leur source de revenus principale. Par exemple, en Afrique, à peu près une moitié de la population dépend directement de l'agriculture. Ça veut dire que toute modification de la température ou de la pluviométrie a un impact direct sur les ressources à disposition des habitants. Et je pense qu'on va avoir non seulement une augmentation de ces migrations environnementales, parce que le changement climatique va produire toute une série d'impacts qui vont déplacer des gens, mais va aussi avoir un impact profond sur d'autres causes de migration, par exemple sur les conflits, par exemple, qui vont à leur tour aussi entraîner des migrations. Donc il y a vraiment un rôle démultiplicateur du changement climatique. Et puis, ça va aussi transformer les migrations. Je pense que les gens ne vont plus bouger de la même manière. Je pense que de plus en plus de personnes vont être contraintes soit de migrer, soit vont être contraintes de rester. Et une chose qu'on oublie parfois, c'est que la migration, c'est souvent un luxe qui est disponible uniquement aux plus nantis et que très souvent, les populations les plus vulnérables restent coincées, immobiles face au danger. Au nord-est du Ghana, comme dans beaucoup d'autres pays de la région, il y a des migrations pastoralistes, comme on les appelle, c'est-à-dire des migrations de bergers nomades qui ont tendance, de par leur mode de vie, à se déplacer régulièrement. Et on voit que le changement climatique et les sécheresses, en particulier la désertification, la dégradation des sols, affectent beaucoup la manière dont les gens se déplacent, notamment à la recherche de pâture pour leurs bêtes. L'essentiel des migrations liées à l'environnement, c'est souvent des migrations sur d'assez faibles distances à l'intérieur d'un pays, ce qui contredit un peu l'image qu'on en a parfois de millions de réfugiés qui viendraient frapper à la porte du continent. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité, et c'est aussi pour cela que souvent ces migrations sont invisibles.
Baba Bakonare, comment vous réagissez ?
Alors, c'est vrai qu'au nord-est du Ghana, au nord du Togo, au nord du Bénin aussi, on a de plus en plus de pasteurs qui arrivent et les États sur place ont souvent des politiques assez dures. Au Bénin, par exemple, une loi a été discutée récemment qui aurait interdit la moitié sud du pays aux pasteurs, mais les rendant de facto criminels, parce que comme les gens se disent qu'ils n'ont pas autre endroit où aller, parce qu'il n'y a pas suffisamment de terrain de pâturage, donc ils s'aventurent quand même dans les endroits où c'est interdit pour eux d'aller. Et donc, les rendant criminels de facto, c'est aussi quelque chose qui pousse encore plus dans les bras de groupuscules armés qui, eux, peuvent dire « Non, finalement, c'est votre droit, vous pouvez en jouir comme vous en avez envie ». Je pense que, vraiment, on ne peut pas faire de ces problématiques-là juste une question de pays sahélien, de regarder juste de manière horizontale. Il faut aussi regarder de manière verticale comment est-ce qu'on peut faire des complémentarités dans les plans intégrant le changement climatique et la gestion des ressources naturelles entre les pays de la côte et les pays qui sont plus à l'intérieur. Ne pas voir chaque État de son côté, mais vraiment le voir en tant que continuum. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt pour que les institutions supranationales, comme la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ou l'Union africaine aussi, puissent vraiment faire leurs propres propositions en marge des rencontres internationales comme les COP.
Mais aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet qui prend de l'ampleur au sein, par exemple, de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ?
Alors, c'est un sujet qui est discuté, mais pour des thématiques précises. Le nombre de symposiums, de séminaires qu'il y a sur l'élevage, oui, ça se concentre sur les éleveurs, sur l'impact sur les éleveurs. Mais je pense que ce qui manque vraiment, c'est une vision intégrée entre les différentes professions, et puis aussi avoir en tête les pêcheurs. C'est vrai qu'on en a peu parlé, on a beaucoup parlé des agriculteurs et des éleveurs, mais les pêcheurs aussi sont des gens qui bougent. Les pêcheurs au centre du Mali, par exemple, peuvent être considérés comme des nomades. Comment est-ce que eux, on les accorde aussi dans les nouvelles nomenclatures en termes de loi? Et comment est-ce qu'on peut le faire sur plusieurs pays en se disant que ce qui vaut dans un endroit comme le Mali, ça peut aussi valoir pour le Nigeria? Je pense que ça manque vraiment, cet aspect intégratif.
Et autre sujet, on va en parler dans un instant, il y a aussi les impacts sur les dispositifs militaires eux-mêmes. On en parle juste après une pause en musique avec Kurt Weill. C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons des conséquences de la dégradation de l'environnement sur les politiques de sécurité et de défense avec nos deux invités. Et nous parlons des impacts sur les dispositifs militaires eux-mêmes. Les États-Unis sont sans doute le premier pays à s'être préoccupé de ces questions dès le milieu des années 90. Bonjour Éric de Salve.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à San Francisco. Alors l'armée américaine s'inquiète du changement climatique. Selon un rapport du Pentagone publié en janvier, le changement climatique menace les bases américaines.
Oui, dans ce rapport, le Pentagone finit par l'admettre, Anne-Cécile, les bases militaires américaines ne sont pas épargnées par le changement climatique. Les risques sont finalement les mêmes qu'ailleurs. Plus de la moitié de ces bases américaines sont directement menacées par des catastrophes naturelles extrêmes, des événements climatiques de plus en plus violents, de plus en plus récurrents. Selon le rapport, les installations militaires vont devoir faire face à des giga-incendies, comme en Californie en novembre dernier, à la fonte du permafrost, à l'alternance de sécheresses records et d'inondations monstres, et bien sûr à des saisons cycloniques de plus en plus dévastatrice, sans oublier enfin bien sûr les risques liés à la montée des eaux.
Et le temps presse, puisque selon ce rapport du Pentagone, ces menaces vont se concrétiser d'ici 20 ans. Pourtant, aucune mesure spécifique n'est annoncée par l'administration Trump.
Oui, il est urgent selon ce rapport. Les deux tiers des 79 installations militaires examinées sont menacées par ces événements météo extrêmes. Ça pourrait devenir incontrôlable, mais seulement d'ici 20 ans tente effectivement de rassurer le Pentagone, car aucun budget supplémentaire n'a été débloqué par le ministère de la Défense pour répondre à cette menace. Une menace qui serait déjà prise en compte, assure le gouvernement américain. Une réponse dont doute très fortement l'opposition démocrate au Congrès, qui a justement commandé ce rapport au Pentagone dans l'espoir d'anticiper, d'améliorer la préparation de l'armée américaine au changement climatique.
Mais un rapport inquiétant et pourtant très critiqué dès sa diffusion au Congrès par les démocrates. L'opposition estime en effet que le Pentagone a volontairement minimisé les risques liés au changement climatique.
Certains élus démocrates n'ont pas mâché leurs mots. Ce rapport a autant de valeur qu'un annuaire téléphonique, ironise même Jack Reed, membre de la commission des forces armées au Sénat. Selon lui, le Pentagone considère toujours le changement climatique comme une question secondaire. Avis partagé par de nombreux experts. Beaucoup de choses manquent dans ce rapport de 22 pages, très imprécis selon le Centre pour le climat et la sécurité. Un centre d'experts qui rappelle en effet que les bases qui ont déjà été frappées par des catastrophes naturelles liées au changement climatique sont absentes du rapport. D'abord, il y a notamment le camp Lejeune en Caroline du Nord, confronté à des travaux estimés à 3,6 milliards de dollars après le passage de l'ouragan Florence. C'était en septembre 2018. Sans oublier la base Tyndall en Floride, celle qui abrite les fameux avions Raptor au coût faramineux. Après le passage de l'ouragan Michael la même année, cette base aérienne estime les réparations à 5 milliards de dollars. Conclusion du Centre pour le climat et la sécurité, cette menace du changement climatique sur les bases militaires américaines, c'est dès aujourd'hui qu'elle se pose et pas dans 20 ans. Pour les démocrates, eh bien, si ce rapport refuse de désigner les bases les plus menacées, notamment les bases navales à protéger en priorité en raison de la montée du niveau des océans, c'est uniquement pour ne pas contrarier le discours climato-sceptique de la Maison-Blanche.
Et oui, Donald Trump, climato-sceptique notoire, qui qualifie régulièrement le changement climatique de canular. Mais aux États-Unis, ce débat est ultra politisé et pour la première fois, cela semble évoluer. Depuis quelques semaines, le climat s'invite dans la présidentielle américaine.
Oui, absolument. En pleine course à l'investiture démocrate, plusieurs candidats défendent l'idée d'un Green New Deal, un New Deal vert, un débat nouveau aux États-Unis, alors que le pays doit effectivement sortir de l'accord de Paris sur le climat en novembre 2020, sortie effective, c'est-à-dire pile au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Au premier jour de ma présidence, je ne réinscrirai dans l'accord sur le climat, a d'ailleurs promis Amy Klobuchar, l'une des candidates. En tout cas, cette idée de New Deal vert a immédiatement été moquée par Donald Trump. Les démocrates veulent éliminer tous les avions, les voitures, les vaches, le pétrole, l'essence et notre armée, répond le président américain. La Maison-Blanche qui est en train de constituer son propre panel d'experts destiné à valider ces thèses climato-sceptiques pourtant unanimement contestées par la communauté scientifique.
Éric De Salve, correspondant de RFI en Californie. Merci pour toutes ces précisions. Bastien Alex, votre réaction ?
Je crois que le reportage de votre collègue montre bien la pertinence des travaux et de l'investissement de nos collègues du Center for Climate and Security, qui sont donc membres, qui sont à l'origine de la création du réseau que vous mentionniez en début d'émission. Effectivement, il y a une lutte, une opposition farouche entre le DOD, le département de la défense, et l'administration Trump, sachant qu'aujourd'hui, et qui l'eût cru, finalement, ce sont les militaires qui sont devenus le rempart et qui portent un peu le sujet climat au sein de l'administration américaine. C'était pas vraiment le cas il y a 20 ans à peu près, mais bon, voilà. En tout cas, nous, on travaille d'arrache-pied avec eux pour justement réussir à continuer ce travail de mobilisation et de sensibilisation.
Alors à travers votre observatoire Défense et Climat, on a bien compris, vous faites émerger cette problématique qui prend de plus en plus d'ampleur. Quel est l'agenda ? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que les politiques se saisissent vraiment du sujet ?
Pas véritablement. Alors je crois que le sujet gagne en visibilité.
La preuve, cette émission.
Voilà, la preuve, cette émission, et merci de votre invitation. Après, en termes de traduction en actes concrets, c'est toujours plus difficile. La grande déception que j'ai vis-à-vis de nos politiques, pour l'instant, c'est cette absence totale de cohérence. Il faut mettre en cohérence les objectifs. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'Union européenne, en 2015, a décidé de stopper la politique des quotas laitiers, ce qui a provoqué donc une production excédentaire. Ils ne sont pas vraiment plus riches, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, cet excès de production est exporté vers la Chine, marché en croissance, et d'autres territoires comme l'Afrique, par exemple, sous forme de lait en poudre. Et aujourd'hui, le lait en poudre, résultat de la surproduction décidée à Bruxelles, va concurrencer, par exemple dans un pays comme le Sénégal, l'émergence de filières locales laitières sur le territoire. Filières qui sont soutenues en parallèle par les politiques de développement de l'Union européenne. Donc c'est cette espèce de contradiction totale qu'il faut à tout prix arrêter et véritablement poursuivre des objectifs qui ne sont pas contradictoires. Je crois que c'est aujourd'hui ce qu'on demande aux politiques. Moi, je suis convaincu que si on n'arrête pas cela, malheureusement, on ira dans le mur. Et peut-être que là, les militaires ont aussi leur mot à dire en disant si vous voulez que l'on s'occupe des conséquences sécuritaires du changement climatique, peut-être que vous ferez bien aussi d'arrêter de nous créer des problèmes potentiels avec ces politiques qui vont dans des directions totalement opposées.
Baba Vakonare.
Moi, je dirais juste que j'ai une grande crainte quant aux opérations militaires dans le monde, notamment dans le Sahel. Je prendrais pour exemple l'opération Bayar Panga qui a eu lieu au printemps 2017, où une grande partie, une partie importante en tout cas, de la flore a été détruite à cause des bombardements par l'armée. Et finalement, ce sont les populations qui paient les pots cassés. Lorsque l'armée intervient de cette manière-là au nom de la poursuite des djihadistes, les populations acceptent parce qu'elles se disent c'est pour notre sécurité, ça va servir à quelque chose, mais finalement leurs ressources vivrières sont détruites et en plus la guerre finale contre le djihadisme n'est pas résolue et ils se retrouvent encore à devoir bouger et à finalement tomber entre les mains de ceux-là même qu'on est en train de pourchasser. Donc moi je dirais ok, faisons des interventions, mais ne faisons pas de politique de la terre brûlée.
Voilà, et surtout, essayons d'agir sur les causes des problèmes et non les conséquences.
Et de la cohérence, une fois de plus. Merci à tous les deux d'avoir d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. Il y a une vie après l'émission. Vous pouvez retrouver nos invités sur la page Facebook de l'émission et interagir avec nous. Donc n'hésitez pas, nous serons ravis de vous lire. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.